Bonjour Jean Pisani-Ferry.
Bonjour.
Et France Stratégie a publié hier une note sur les leviers pour l'emploi qui s'inscrit dans un travail plus global intitulé 2017-2027, voire plus loin, voire plus clair, qui se veut une proposition de réflexion sur les grands enjeux économiques dans la perspective de l'élection présidentielle. Intéressons-nous aux aspects travail, puisque nous sommes au cœur de l'actualité avec la loi travail en ce moment. Et le premier constat est très simple et assez dur au fond. En dépit des dépenses publiques engagées en faveur de l'emploi, dites-vous, depuis 30 ans, la France reste marquée par un chômage élevé, alors que certains pays européens réussissent, eux, à concilier faible chômage, taux d'emploi élevé et qualité des emplois. Pourquoi la France fait-elle moins bien?
Alors d'abord le constat, que le chômage est élevé, tout le monde le sait. En revanche, on pense parfois que c'est la contrepartie du fait qu'on a un emploi de meilleure qualité ou c'est la contrepartie du fait qu'il y a plus de gens sur le marché du travail. C'est pas vrai. On a pris les 6 pays en Europe qui font mieux que nous sur l'ensemble des coordonnées, c'est-à-dire à la fois sur le taux de chômage, ils sont en moyenne à 5%, on est à 10%, sur la proportion de la population d'âge actif qui est dans l'emploi, ils sont 10 points au-dessus de nous, et puis sur la qualité de l'emploi, on a pris un ensemble d'indicateurs.
Comment on mesure la qualité d'un emploi?
Vous mesurez les questions de sécurité, vous mesurez les questions de relations sociales, vous mesurez les bien-être de l'entreprise, vous mesurez une série de choses comme ça. On a pris des sources d'ailleurs qui sont des sources syndicales de la Confédération des syndicats européens. Et là-dessus, on est en tout cas pas meilleur et souvent moins bon.
Alors, donc, pour quelle raison?
Donc, parce que de manière générale. Ouais. C'est pas qu'on a choisi quelque chose contre autre chose. On est moins bon et nettement moins bon sur l'ensemble. Et ça, en dépit d'un effort par les dépenses publiques qui est considérable, qui est aujourd'hui de 108 milliards, c'est-à-dire plus de 5 points de PIB. C'est énorme. Il n'y a probablement pas. Alors c'est difficile puisqu'on compte l'ensemble des dispositifs, on n'a pas de comptage systématique pour les autres pays, mais c'est probablement ce qu'on fait de plus élevé. En tout cas parmi les pays européens.
Et c'est un constat qu'on fait par exemple parfois aussi dans l'éducation. On dépense beaucoup en France pour l'éducation. On n'est pas très bien classé dans les classements internationaux. Comment
on
se fait-il
beaucoup,
alors là sur l'emploi
où, hein, dans l'éducation, on dépense beaucoup dans le secondaire, on dépense pas beaucoup dans le primaire et pas beaucoup dans l'université.
Sur l'emploi, comment se fait-il qu'en dépensant plus, on fasse moins bien?
C'est la combinaison des instruments. Alors, pourquoi on dépense beaucoup? D'abord, il y a évidemment toute la contrepartie du fait qu'on a un chômage élevé. Donc, ça a des dépenses d'indemnisation de chômage, de formation des chômeurs, c'est un cercle vicieux. Ça, c'est à peu près la moitié. L'autre moitié des 100 milliards, c'est tous les dispositifs qu'on a fait pour soutenir l'emploi, en particulier les allègements de cotisations qui sont importants. Alors, ces allègements, ils ont des effets positifs sur l'emploi. C'est l'ensemble du système, l'ensemble des leviers. Alors, quels sont les leviers? D'abord, il y a un problème qui est un problème de passage de l'enseignement, de l'éducation à l'emploi et le problème de la formation professionnelle. Là, il y a un effort qu'il faut amplifier parce que il y a beaucoup de frictions, il y a beaucoup de difficultés, il y a des sorties du système scolaire sans diplôme. Tout ça, c'est un des facteurs. Ensuite, il y a ce qu'on peut faire en redistribuant l'effort qu'on fait autrement. Donc on pose la question, est-ce qu'il faut redistribuer autrement? Est-ce qu'il faut sur les cotisations, est-ce qu'il faut changer le système de financement de la protection sociale de manière plus profonde, hein, c'est-à-dire
pour aller vers quoi?
Pour aller par exemple avec un système qui serait plus assis sur un financement plus large, moins reposant exclusivement sur les salaires. Alors on peut penser à des points de TVA, on peut penser à des CSG, enfin tout ce qui est basculé sur une assiette plus large, qui revient d'une certaine manière à une dévaluation par des instruments fiscaux. Et on dit aussi, sur les bas salaires, notre système, c'est qu'on a un SMIC relativement élevé, on a des allègements très importants. Ces allègements sont généraux, ils coûtent très cher, parce que tous les salariés en bénéficient. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Alors, bon, on touche à un des tabous, hein,
oui, le SMIC en particulier.
Bien sûr.
Oui.
Mais ce qu'on dit, c'est le but dans l'affaire, c'est d'un côté le pouvoir d'achat, d'un côté éviter des situations de pauvreté, de l'autre l'emploi, On le fait en ayant un SMIC élevé et des allègements très importants. Est-ce que c'est la bonne combinaison? Ça fait partie des choses qu'il faut... On ne prend pas position à ce stade, mais ça fait partie des choses qu'il faut
le
discuter.
Le SMIC, il est élevé en valeur relative, parce qu'en valeur absolue, aujourd'hui, il est quand même difficile de vivre avec
bien
le salaire
sûr,
minimum.
Bien sûr, on parle en valeur relative, on parle par rapport au salaire médian.
Est-ce
sûr.
Que le dialogue social en France, dont on voit aujourd'hui tout de même qu'il est assez difficile, est aussi l'une des explications des difficultés sur le marché du travail? Est-ce qu'il est aujourd'hui un frein à l'emploi, ce dialogue social si compliqué?
Alors, c'est difficile à mesurer. Oui, probablement le fait que, d'abord, on a une formation des salaires en France qui réagit peu à la conjoncture. C'est frappant de voir que, depuis près de 10 ans, on a eu une situation de l'emploi qui s'est détériorée avec la crise financière. Les salaires ont très peu répondu à cette détérioration. Donc, on a beaucoup d'inertie dans les mécanismes de formation des salaires. Ça fait partie du mode de formation, de discussion au niveau général avec le SMIC, au niveau des branches, au niveau des entreprises. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de réactivité à des situations qui changent.
Et il y a quand même une culture du rapport de force et de la grève en France.
Alors,
il y a aussi, bien sûr,
il y a la culture du rapport de force et de la grève. Mais bon, c'est difficile à dire en ce moment. Si on regarde sur la longue durée.
Oui, mais c'est intéressant de
non, mais si on regarde sur la longue durée, le nombre de jours de grève a quand même beaucoup baissé en France. Donc on n'est pas. On a une image d'Épinal qu'on entretient soigneusement, régulièrement, on fait ce qu'il faut pour l'entretenir, mais en même temps, on a une réalité qui est plus exactement celle-là.
Dans ce rapport plus large, je disais, 2017-2027, vous vous intéressez à la question de l'Europe et vous vous interrogez sur l'avenir de l'Europe, qui traverse, dites-vous, une quadruple crise de l'euro qui n'est pas réellement résolue, des réfugiés, sécuritaires et crise existentielle qui, je cite le rapport, née d'une performance économique médiocre et de vision divergente du projet européen, conduit certains pays et une part croissante des populations à contester les finalités et jusqu'à la pertinence de l'entreprise européenne. Ça nous amène au Brexit. Il y a aujourd'hui vraiment, chez une part grandissante de la population européenne, une volonté de tourner le dos à l'Europe?
Non, l'attachement demeure, mais la mise en cause des institutions est forte. Donc, si vous voulez, quand on demande aux gens, ils restent favorable à l'intégration européenne, mais il critique beaucoup la manière dont ça se fait.
Mais on peut le comprendre, puisque vous parlez vous-même de performance économique médiocre.
L'Europe, ça a été la paix, bien sûr, et puis ça a été la prospérité pendant des années. C'était le symbole de la prospérité. Et tous les pays qui ont voulu rejoindre l'Union européenne, tous les élargissements, ça a été d'ailleurs des succès, de manière générale. Et c'est pour ça que tant de pays aussi ont voulu rejoindre, parce qu'ils voyaient une promesse de prospérité. Cette promesse de prospérité, on ne la remplit plus depuis une dizaine d'années. C'est vrai...
Depuis l'euro?
C'est vrai, oui, depuis l'euro, c'est-à-dire la première décennie de l'euro, ça s'est très bien passé, ça s'est apparemment très bien passé, et puis il y a eu des déséquilibres marqués qui sont creusés et dont il a fallu payer le prix dans la deuxième partie de la décennie. Donc il y a eu des erreurs dans la gestion de l'euro, c'est clair.
La sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Europe serait une catastrophe ou pas?
Ce serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Je pense que ce serait une nouvelle d'affaiblissement de l'Europe à un moment où on est dans un environnement qui est un environnement instable et dangereux. Ça provoquerait inévitablement des questions dans d'autres pays. Et puis, le Royaume-Uni, avec toutes ses spécificités, c'est le centre financier de l'Europe. C'est un centre financier mondial. Et donc, se séparer de son centre financier, c'est quand même pas nécessairement une très bonne nouvelle.
Merci, Jean Pisani-Ferry. Bonne journée.